Du plus petit des virus à la baleine bleue, en passant par l'homme et toutes les plantes, les différentes espèces qui forment le monde vivant représentent un ensemble connecté particulièrement sensible aux modifications apportées à l'environnement par les activités humaines. Et un grand nombre d'exemples illustrent aujourd'hui donc la crise environnementale dans laquelle nous vivons et les relations que nous entretenons avec la nature. En modifiant son environnement, l'homme a obligé les organismes à s'adapter et a permis l'émergence de nouvelles maladies. C'est l'objet de notre tête au carré donc cet après-midi avec mes invités. Vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque ». Tout le monde rêve, même ceux qui pensent qu'ils ne rêvent jamais. Ce sont les résultats d'une étude qui vient de paraître et que nous mettons à la une de la science. Axel, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, une jolie démonstration qui viendra peut-être soulager tous ceux parmi vous qui pensent qu'ils ne rêvent pas. On attend vos questions donc oniriques aujourd'hui à la une de la science sur Twitter dans un instant.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par François Mercier avec Margot Dullard.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La nature à l'épreuve de l'homme, c'est donc un livre qui paraît et qui parle des conséquences des modifications de l'environnement par l'homme. Valérie Chansigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage dont nous allons parler avec vous. Et puis également David Biron qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Valérie Chansigaud, est-ce que ça fait longtemps que l'homme modifie de façon visible la nature qui nous entoure?
Oui, depuis en fait l'origine de l'homme, c'est même l'une des grandes caractéristiques de l'espèce humaine, c'est sa capacité à modifier l'environnement à ses propres fins, à ses propres objectifs, et modifier de façon considérable.
Oui.
Dans un livre précédent, L'homme et la nature, j'avais traité de cette question justement depuis la préhistoire, tandis que ce livre m'amène en fait à m'intéresser sur, je dirais, une période beaucoup plus contemporaine, les 50 dernières années, les 20 dernières années, et à s'interroger justement sur l'accélération de la crise que l'on peut constater.
David Biron, vous êtes parasitologue. Est-ce que les modifications justement apportées par l'homme sur son environnement permettent à de nouveaux organismes vivants, toujours plus nombreux, d'émerger?
À des nouveaux organismes vivants d'émerger, non. Actuellement, on observe une importante baisse de la biodiversité d'espèces qui... Je pense qu'à peu près, on estime 1000 à 6000 fois... supérieur à ce qu'il y a eu les siècles précédents, et on est probablement, les gens, beaucoup de scientifiques aiment dire qu'on est dans la sixième extinction actuellement.
Oui, c'est vrai. On va se retrouver donc dans un instant avec vous pour parler de cette crise environnementale et puis bien sûr de ses impacts avec les messages des auditeurs. Et à la une de la science, aujourd'hui, la preuve apportée que tout le monde rêve. Bonjour Isabelle Arnulf.
Bonjour.
Vous êtes professeure de neurologie au service pathologie du sommeil de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous êtes à l'origine de cette publication INSERM que vous avez joliment intitulée « La preuve que les non-rêveurs rêvent ». Qui sont-ils ces non-rêveurs chez qui vous pensez avoir décelé des rêves?
Normalement, quand vous demandez un petit peu à tout le monde, 20% de la population vous dit rêver peu ou pas.
Oui.
Et puis quand on va chercher dans le détail, il y a un peu moins de 1% qui ne rêvent jamais, qui ne savent même pas ce que c'est depuis tout petit, même pas cette impression très vague qu'on peut avoir au réveil d'avoir rêvé sans s'en souvenir.
Ça c'est fou quand même.
Le rêve blanc. Mmh. Et ceux-là, ils ont depuis longtemps été étudiés, mis dans des laboratoires de sommeil, ben, ils dorment comme vous et moi, ils ont les mêmes stades de sommeil, ils se réveillent aussi souvent, ils sont aussi intelligents, développés.
Il n'y a pas de pathologie particulière.
Non, pas du tout. Et puis, depuis une quinzaine d'années, nous étudions un autre problème nocturne, ces personnes qui extériorisent leurs rêves en sommeil paradoxal, qui se traduit généralement par un aspect de cauchemar agité. Des gens qui donnent des coups de pied, qui se disputent ou qui font des choses moins sévères. Et vous voyez 1% d'un côté, de l'autre côté, cette pathologie qui est relativement rare. En 10 ans, on a vu 300 patients avec ce trouble. Et nous sommes aperçus que ces patients-là, qui normalement extériorisent leur rêve en sommeil paradoxal, quand on les réveille, ils rapportent un rêve qui est exactement comme tout le comportement qu'on a vu nous avant, les paroles prononcées, etc. Mais parmi eux, sur 10 ans, on a trouvé 8 qui se rappelaient jamais de leur rêve depuis tout petit.
Donc eux, ils étaient intéressants pour vous.
Voilà, c'est des vrais non-rêveurs. Et eux, on a regardé s'ils avaient un problème de mémoire, pas du tout. S'ils avaient un problème de représentation mentale. Si je ferme les yeux et que je me dis, est-ce que je vois la tour Eiffel, je peux me la représenter. Et ils étaient capables d'avoir une représentation d'image mentale. Et malgré ça, aucun souvenir de rêve. Et nous les avons enregistrés. Et ils nous ont fait, mon Dieu, tous les comportements possibles.
C'est ça. Et alors, depuis toujours, en fait, ces personnes n'ont aucun souvenir de leur rêve?
Depuis tout petit, voilà.
Axel,
vrai non-rêveur.
Mais il est temps d'écouter un de ces enregistrements. Vous avez apporté le son d'un de ces 8 non-rêveurs pris en flagrant délit de rêve. On l'écoute tout de suite.
Et la nuit,
Il a sommeil joyeux, oui. Apparemment, quand même. Hein.
On est sûr, là, Isabelle, que ce monsieur est en train de rêver?
Oui, on est sûr, parce que donc il est endormi, on en est sûr. Ça peut être étonnant quand on entend chanter comme ça.
Oui, effectivement.
Il,
oui.
Il a bien les ondes de sommeil. Par contre, nous autres, quand nous rêvons, ça reste intérieur. C'est une expérience intime. Lui a une atteinte d'un système qui est censé verrouiller nos sorties motrices et nos paroles pendant le sommeil. Sinon, on divulguerait des secrets à longueur de nuit.
C'est
et surtout, on cognerait nos voisins, parce que les rêves sont généralement assez violents.
On a des petits cadenas, alors, c'est ça?
On a un petit cadenas qui est situé dans le tronc cérébral et qui, ouais. Et qui paralyse à l'aide d'un puissant paralysant qui est de la glycine, la moelle épinière. Mmh. Ça nous empêche de bouger dans cette phase de sommeil. Et ces personnes-là ont une atteinte de ce petit noyau.
Et comment réagissent ces personnes quand vous leur montrez pour la première fois leur corps en train de rêver?
Alors la première surprise qu'ils ont, c'est de voir le désordre qu'ils ont mis dans la chambre, parce que ils peuvent renverser les tables de nuit, etc. Mmh. Et ils sont surpris, ils ont l'impression de voir quelqu'un d'autre.
Alors est-ce que vos découvertes justement peuvent aider ou s'appliquer en tout cas à tous ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, ou très rarement en tous les cas?
Ça montre surtout qu'ils sont comme nous producteurs de rêves, mmh. Simplement que soit ils ne gravent pas le souvenir de rêve, soit ils le gravent mais ils n'accèdent pas au disque dur. Et donc l'étape suivante va être de voir, de montrer à quelqu'un son scénario ou de lui dire un élément de ce qu'il a prononcé en rêve et de voir si ça fait un fil d'Ariane pour retrouver sa mémoire de rêve. Est-ce qu'on a quelque part un disque dur avec tous nos rêves?
Ça serait formidable de le retrouver en tout cas, et pouvoir mettre la main dessus. Ouais. Donc concrètement, vous mettez des gens à dormir dans votre laboratoire?
Oui,
c'est comme ça que vous procédez?
C'est comme ça, avec des caméras infrarouges, puisqu'on filme dans le noir, des micros, comme vous pouvez entendre. Et on découvre tout un monde de la nuit, comme ça, avec beaucoup de gens qui parlent, qui rient, qui se débattent, qui crient. Tout en restant endormi, on en est sûr, à cause de nos capteurs.
Est-ce qu'il existe des personnes qui se souviennent de tous leurs rêves?
Il existe des personnes qui sont fatiguées de rêver et qui viennent nous voir pour ça, en disant « je suis fatiguée, je rêve toutes les nuits, c'est d'un ordinaire à mourir, je fais du repassage, je choisis mes habits, etc. » Vous savez que la plupart des rêves sont quand même relativement ordinaires, si on les recueille systématiquement. Et ces personnes-là viennent nous voir parce qu'elles sont fatiguées de cela. Alors on peut le voir dans différents problèmes, tels que des insomnies ou des hypersomnies. Et il semblerait que ça ne soit pas très bon d'être conscient de tous ces rêves. En tout cas, ça a l'air fatigant.
Oui. Vous travaillez beaucoup sur le sommeil des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, c'est ça? Pourquoi ces malades, justement, font de bons sujets scientifiques pour vous?
Alors, parce que ces patients, à cause de la perte de cellules qu'ils ont liées à la maladie de Parkinson, cette perte de cellules survient non seulement dans ce qui va contrôler le mouvement dans la journée, ce qui est à l'origine de leur tremblement et de leur ralentissement moteur, mais cette perte de cellules peut survenir dans ce petit verrou plus bas, et dans beaucoup de cas, ça survient même avant le début de la maladie de Parkinson elle-même, 10-15 ans avant. Et maintenant, on sait que ces personnes qui extériorisent trop leurs rêves en sommeil paradoxal, qui ont ces combats, etc., ont un très haut risque de développer au bout de 10-15 ans une maladie de Parkinson. Mmh. Donc, ils nous intéressent pour essayer de comprendre ce qui se passe et les protéger, puisqu'on est bien avant la perte de dopamine.
Mmh. Peut-être une dernière question. Est-ce que c'est important ou est-ce que ça sert à quelque chose de se souvenir de ses rêves?
Le rêve semble pas avoir été programmé pour être retenu. La majorité des gens les oublient. Donc c'est plutôt par intérêt personnel qu'on peut chercher à s'entraîner à les retenir. Ça ne semble pas grave d'en avoir pas le souvenir.
En tout cas, ça sert à raconter de belles choses à son psychanalyste aussi, de temps en temps, pourquoi pas.
Absolument.
Est-ce que les traitements...
Et aux chercheurs.
Et aux chercheurs, oui. Est-ce que les traitements médicamenteux influencent les rêves aussi? Ou est-ce que la façon dont nous mangeons, et en fonction de ce qu'on mange, est-ce qu'on peut établir des corrélations?
Ce qu'on mange a été peu étudié, bien qu'on dise que les viandes fassent rêver, mais c'est plutôt une
idée populaire. Les viandes font rêver?
Font rêver plus ou souvenir plus. Évidemment, si vous faites un bon gueuleton, vous pouvez avoir un peu de reflux acide et vous réveillez plus. Et du coup, plus vous souvenir de vos rêves. Mais au niveau des médicaments, oui, il y en a qui influencent absolument. Il y a des médicaments à cauchemar, comme les bêta-bloquants utilisés dans l'hypertension, certains médicaments à base de dopamine, ce qu'on utilise dans le sida aussi, les inhibiteurs de la transcriptase. Et à l'inverse, il y a des médicaments amnésiants qui font oublier plus les rêves, avec au premier chef la famille des somnifères et des benzodiazépines.
Mmh. Et la proportion de rêves et de cauchemars, est-ce que vous arrivez à l'établir aussi dans vos recherches ou pas?
Alors oui, on demande toujours, et évidemment, c'est différent d'une personne personne à l'autre, mais oui, quand même, une personne a facilement 2-3% de ses rêves qui sont des cauchemars.
Oui, Valérie Chansigaud, l'état de la planète aujourd'hui ne vous fait pas trop cauchemarder, parce que quand on lit votre livre, c'est pas franchement pour nous faire faire de jolis rêves.
Maintenant, je sais qui consulter.
Ah ben voilà, ah ben oui, vous avez l'une des meilleures à côté de vous. Hein. Donc, prenez ces coordonnées, effectivement, ça pourra vous servir. Merci beaucoup Isabelle Arnulf, c'est une publication qui vient de paraître, donc réalisée par votre équipe et pour l'INSERM. Merci beaucoup d'être passé à la une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, eh ben une info tiens pour nos invités. Un nouveau virus humain a été découvert par des chercheurs de l'Université de Columbia. Il a été retrouvé dans 46 échantillons de sang transfusés entre 1974 et 1980 grâce à des techniques récentes de recherche d'ADN viraux nommées PJ virus 1. Il représente des similarités de structure avec celui de l'hépatite C, mais pas d'inquiétude, hein, il semblerait inoffensif et rapidement détruit par notre système immunitaire. Selon les chercheurs, il se pourrait même qu'il soit bénéfique pour notre corps, tout comme bon nombre de bactéries. David Biron, vous voulez réagir?
Oui, ben souvent. Donc ça, c'est la vision, on va dire, de la fin du XXe siècle. Les parasites étaient souvent perçus comme des organismes nuisibles.
Absolument.
Mais de plus en plus, il y a un champ disciplinaire qui émerge dans ce début du XXIe siècle où on perçoit les avantages aussi du parasitisme.
Voilà, les virus qui peuvent, par exemple, nous aider aussi.
Et les virus qui sont insérés dans notre génome et qui peuvent avoir des effets bénéfiques.
La mort a-t-elle une odeur? Eh bien, il semblerait que oui. Des toxicologues de l'Université de Louvain en Belgique ont tenté d'identifier les composés chimiques qui caractérisent l'odeur du cadavre humain en plaçant des morceaux de tissu humain et d'animaux dans des jarres, les chercheurs ont pu identifier 452 composés chimiques spécifiques à l'homme et non aux animaux. Cette étude pourrait dans le futur servir à l'entraînement des chiens détecteurs de cadavres. Et puis enfin, il s'appelle Ugru Naluk Kupkikensis et c'est un nouveau dinosaure mis au jour par des chercheurs de l'Université de l'Alaska de Fairbanks. Les fossiles de la bête ont été découverts dans une couche de 69 millions d'années proche de Colville, un cours d'eau septentrional d'Amérique du Nord. Ce dinosaure à bec de canard aurait vécu dans le nord de l'Alaska et pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Tout réussi pour Lou Doyon avec ce deuxième album Where to Start.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La nature à l'épreuve de l'homme, c'est donc un livre qui paraît aux éditions Delachaux Nestlé et qui est signé de notre invité Valérie Chansigaud. Vous êtes docteur en sciences de l'environnement, historienne, chercheuse associée au laboratoire Sphère à l'Université Paris 7 Diderot. Qu'est-ce qui se cache derrière Sphère exactement ?
Science, histoire et philosophie.
Voilà, c'est tout simple. Et puis à vos côtés, David Biron, vous êtes parasitologue et chercheur CNRS en écologie évolutive au CNRS, laboratoire micro-organismes, génome et environnement. Et les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et les questions qui arrivent déjà. Le mot-clé l'attaque pour les messages courts sur Twitter et franceinter.fr. Valérie Chansigaud, vous le disiez tout à l'heure, vous avez publié il y a 2 ans L'homme et la nature, une histoire mouvementée qui racontait l'ancienneté de l'impact de l'homme sur la nature et puis aussi toute la dynamique historique de la crise actuelle. Et ce nouveau livre, c'est donc la suite, mais ancré dans le temps présent. C'est vraiment la crise contemporaine que nous vivons.
Exactement.
Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de continuer, au fond ? C'était aussi par rapport aux rencontres que vous avez faites avec les lecteurs et...
C'est en partie les rencontres, effectivement, les questions qu'on pouvait me poser, et puis aussi... quelque chose qui m'interpellait dans la bibliographie que je connaissais, c'est que je me rendais compte qu'il y avait un volume absolument considérable de documents, de recherches qui étaient faites, qui mettaient à jour une réalité que l'on n'avait pas forcément conscience, en tout cas pour le grand public. Mmh. Et ça m'apparaissait assez intéressant de faire une sorte de travail d'inventaire pour essayer d'expliquer, non pas de faire... comment dire, une encyclopédie des problèmes environnementaux et de santé au jour d'aujourd'hui, mais de donner des pistes pour comprendre la situation actuelle.
Oui. Alors David Biron, vous pouvez nous le présenter peut-être, parce qu'il n'est pas auteur du livre, mais vous le connaissez bien quand même.
On s'était rencontrés autour de Toto le Némato, un magnifique documentaire visible sur Internet que je recommande à tous vos auditeurs.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Toto le Némato, c'est l'histoire, mais je pense que David pourra le présenter bien mieux que moi, parce que t'as suivi la réalisation du film.
Oui, alors bah, Toto le Némato, alors c'est la manipulation parasitaire. Donc justement, vous avez un grillon qui est parasité par un nématomorphe. Mmh. Et le nématomorphe, pour pouvoir compléter son cycle de vie, doit absolument aller à l'eau. Et donc, on appelle ça le comportement dit suicidaire. Et nous avons réalisé un film avec mes collègues de moi. C'était Frédéric Thomas qui m'a reçu lorsque je suis arrivé en France. Et, mm-hmm. et on a fait un film qui a été réalisé sous le nom de Toto le Némato.
Et c'est donc grâce à Toto que vous êtes rencontrés, alors.
Oui, c'est ça, au Muséum des sciences naturelles, lors du festival du film des sciences.
Oui. Stéphane demande sur Twitter, est-ce que Valérie Chansigaud, vous allez faire un procès à l'agriculture française ? Voilà, d'emblée, il aimerait bien savoir un petit peu la teneur de vos propos.
Alors, procès, non. C'est-à-dire, on peut être critique sans défendre forcément une sorte de point de vue idéologique ou en quelque sorte de partir en croisade.
Et si tel était le cas, ce ne serait pas que l'agriculture française en plus. Hein.
Non. Et ça serait sans doute pas que l'agriculture. C'est-à-dire, c'est bien l'ensemble des comportements humains qu'il faut interroger. Dans ces comportements humains, il y a l'agriculture, mais l'agriculture n'est qu'une facette d'un problème qui est beaucoup plus vaste.
Oui. Il y a Jean-Paul qui nous dit, on parle souvent de dérèglement climatique, mais jamais des dérèglements biologiques dus à l'homme. Alors c'est vrai, en cette période pré-COP21, est-ce qu'il faudrait aussi mettre... Enfin, ça fait partie des discussions quand même aussi, hein, ces dérèglements biologiques.
Alors, la question du dérèglement climatique pose un petit peu un problème, parce qu'on a l'impression que, pour la première fois, on est face à une crise globale, majeure, qui touche toute la planète. Mmh. En fait, c'est faux, la crise existe, et le réchauffement climatique est une facette, pour reprendre le terme que je viens d'utiliser, d'une crise, effectivement, qui est déjà globale. Effectivement, les techniques ou les choix de l'agriculture, le choix de mode de vie, la place du commerce dans la société, tout cela contribue en fait à créer le problème du dérèglement climatique, mais pas seulement. Mmh. Et en fait, c'est bien une crise sociale, une sorte de dysfonctionnement de la société qui produit en fait une conséquence globale.
Mmh. David Biron ?
Oui, c'est une conséquence globale qui après va avoir aussi un impact important sur... toute la distribution des espèces, et il peut en arriver justement avec des espèces qu'on n'a jamais observées sur le territoire et qu'après on devra trouver des solutions pour être capable éventuellement de les contrôler ou atténuer leurs effets. Et ça va des pathogènes à la fois pour le milieu agricole, mais comme aussi pour notre santé et santé humaine.
Oui. Vous dites justement, Valérie Chansigaud, qu'il y a beaucoup d'espèces endémiques à certains pays qui disparaissent en grand nombre et qui sont remplacées, pour le coup, là aussi en très grand nombre, par d'autres espèces venues d'ailleurs.
Pour donner une formule courte, en fait, c'est que l'enrichissement local a toujours conduit à un appauvrissement global. L'exemple de l'archipel hawaïen est un magnifique exemple parce qu'il a été très bien étudié. On connaît On a une assez bonne idée de l'inventaire des espèces. Et les espèces disparues se comptent en plusieurs centaines, sans doute quelques milliers. Mais les espèces introduites se comptent, elles, en dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'on a introduit beaucoup plus d'espèces que d'espèces ayant disparu du fait de l'activité de l'homme. Alors en fait, on peut avoir l'impression que c'est plutôt une bonne chose, parce que effectivement, Hawaï ne sera jamais un désert. Il y aura toujours des forêts avec des arbres et des insectes. Simplement, ce qui disparaît est quelque chose d'unique, qui ne vivait que là. Et ce que l'on a importé, ce sont des banalités qu'on va retrouver dans à peu près toutes les îles du Pacifique. En fait, cet enrichissement local est l'une d'ailleurs des causes directes de l'appauvrissement global.
C'est une disparition de la diversité biologique, du coup, David Biron. Oui. Et ça, ça pose un vrai problème aussi.
Oui, ben, donc c'est sûr que donc au niveau donc écologique, on parle donc de la résilience d'un écosystème ou de sa résistance. Et donc souvent, lorsque justement il y a un gros changement des communautés des espèces, il se peut que on soit plus jamais capable de revenir en arrière. Donc ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles communautés, des nouveaux réseaux trophiques qui vont se mettre en place. Mais les espèces qui étaient là autrefois sont appelées à ne plus être présentes et il y aura un nouvel écosystème qui se met en route. Quoi.
Oui, et ce sont des disparitions irréversibles, évidemment, puisque ces espèces n'existaient que dans ces milieux particuliers.
Oui, et si on peut donner un ordre, donc il y a un petit, on appelle ça donc le taux d'extinction de bruit de fond, il y a un moyen de le calculer. Par exemple, chez les mammifères, c'est à peu près 0,25 millions années, donc c'est millions par année espèces. Et donc, ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, si on prend par exemple pour les tout ce qui est amphibien, on est à peu près à un taux qui est 3000 fois la valeur normale. Et tout ça par des actions, par exemple, il y a les chytrides qui ont été introduites par l'homme dans différents écosystèmes. Une chytride, donc c'est
qu'est-ce
un champignon.
Voilà, merci.
C'est une espèce de champignon c'est une espèce particulière que l'on, et là il y a deux hypothèses. Donc il y a une hypothèse qui dit que ce champignon a été introduit soit par qu'on fait des tests, par exemple, pour savoir si les dames sont fertiles. On faisait une injection dans une espèce de xénope et c'était, ce test-là était à l'ensemble de la planète sur les années 50-70. Et après, ces xénopes étaient libérés dans l'environnement, mais avec un chytride, une espèce de chytride sur leur peau. Deuxième hypothèse, c'est mon pays d'origine, donc en Amérique, il y avait...
Ah bon, vous êtes américain?
Oui, ben oui.
Ah, mais tiens, ça ne pas douté.
Un petit accent. Et donc, vous avez les grenouilles qui étaient utilisées justement pour la consommation humaine. Cette espèce-là a été mise un peu partout en Europe et en Amérique et aurait contribué peut-être aussi à la distribution de cette espèce de chytride qui, malheureusement, chez les autres espèces de grenouilles, empêche les champs, donc nuit aux échanges de peau avec le milieu aquatique et cause la mort des espèces. Donc il y a plus de 3000 espèces et les premiers cas, c'est au Panama que les gens commencent à être alertés par rapport à ça.
Benoît demande, est-ce que les grandes épidémies qui ont causé des milliers de morts dans le passé, comme la peste, sont le fait de choix ou d'actions humaines ou bien ces virus étaient naturels?
Les deux, en fait. C'est-à-dire que la peste était naturellement présente dans l'environnement. J'imagine que votre auditeur fait référence à la grande peste noire du XIVe siècle, qui a tué quand même une partie non négligeable, notamment de l'Europe. Mais c'est concomitant, en fait, aux grandes guerres mongoles, la horde d'or de Gengis Khan et de ses descendants, un conflit qui a duré 70 ans et qui a tué quand même 10 millions de personnes. C'est l'un des conflits humains les plus ravageurs de l'histoire humaine. Et c'est vraiment, il y a une concomitance qui est assez frappante et qui pourrait expliquer par des épisodes de famine d'un point de vue local et qui fait que les populations humaines ont exploité différemment leur environnement, se sont exposées de façon encore une fois différente aux rongeurs qui étaient porteurs de la peste. Et là, il y a eu un passage de la peste de ces rongeurs à l'être humain, puis une dissémination via les routes commerciales habituelles.
Les routes de la soie.
Ouais. Il y a énormément d'exemples comme ça. Ebola, par exemple, qui existe naturellement dans certains milieux, mais qui, en raison aussi là, des modifications environnementales, le fait par exemple d'abattre les arbres dans la forêt, permettent à ce virus de s'échapper.
Oui, et puis, alors, Ebola, c'est un système assez compliqué, puisque le virus existe naturellement chez les chauves-souris. Les chauves-souris ne sont pas malades, c'est-à-dire on a même pisté une chauve-souris pendant 18 mois, qui était adulte quand on l'avait capturée la première fois. Et qui
Ebola.
Avec son Ebola et un virus de la rage.
En plus, voilà.
En plus.
Et elle se portait très bien.
Elle se portait très très bien. Et en fait, au bout de 18 mois, on a arrêté de la suivre, simplement parce que la pile de sa balise est tombée en panne, sinon on aurait pu la suivre encore peut-être quelques années. Mmh. Et ce virus, donc naturellement présent chez chauve-souris, va se retrouver en fait, en quelque sorte, exporté vis-à-vis d'autres animaux, notamment les grands singes.
Via l'urine, entre autres, hein,
de la chauve-souris. Oui, la salive aussi. Mmh. Ce sont des chauves-souris frugivores. Donc, quand elles mâchent un fruit, mmh. qu'elles le rejettent ou qu'elles le font tomber, ce fruit peut être consommé, par exemple, par des singes qui vont s'infecter.
Et qui eux-mêmes seront mangés par des hommes.
Voilà, qui vont s'infecter à leur tour. Et en fait, ça, c'est toute cette, comment dire, cette complexité de définir ça en termes de naturel ou culturel, parce que c'est toujours un mélange des deux.
En 1970, au Palais de la Découverte, à quelques centaines de mètres d'ici, se tenait un débat public sur la protection de la nature, les problèmes de la terre et des sols. Et voici ce qui se disait. On va écouter Gérard Monnier, qui est maître de conférence à l'Institut National de Recherche Agronomique, à l'INRA.
Incontestablement, l'utilisation systématique des pesticides, et en particulier des insecticides, entraîne un appauvrissement de la faune du sol. Et cet appauvrissement de la faune du sol est préjudiciable. Est préjudiciable d'une manière globale sur le comportement des cultures, est préjudiciable d'une manière beaucoup plus partielle sur des propriétés physiques comme la perméabilité, parce que par exemple, les vers de terre assurent un travail de forage de galeries qui permettent une meilleure circulation de l'eau dans le sol. C'est une chose qui est assez évidente et qui a été largement prouvée.
Et ça, c'était en 1970. On pourrait reprendre exactement ces propos mot pour mot, hein, David
oui,
Biron.
Oui, on pourrait reprendre les termes aujourd'hui. Et ensuite, pour les différentes stratégies. Donc finalement, notre société, nos sociétés occidentales, sont toujours confrontés à essayer de contrôler les populations à la fois de ravageurs comme d'insectes nuisibles, mm-hmm. mais avec différentes stratégies, dont des mots OGM ou autres stratégies, mais qui reviennent avec tous les risques éventuellement de nuire à la faune du sol et même aux micro-organismes du sol.
Rien n'a changé, au contraire, les choses s'accélèrent même, Valérie Chansigo. Hein.
En 70, c'était déjà la reprise de discours qu'on tenait depuis à peu près une bonne vingtaine d'années. Ouais. Ce qui est frappant, c'est que notre crise environnementale, qu'on vit souvent comme quelque chose de relativement neuf, relativement récent, réchauffement climatique, ça paraît quelque chose vraiment qui vient d'apparaître là, hier. Mais en fait, la crise environnementale dans laquelle on se débat est quelque chose d'ancien. Et ce qui est frappant, c'est la disjonction qu'il y a entre les connaissances très pointues qu'on accumule et qu'on accumule extrêmement tôt, et l'absence de réaction raisonnée par rapport à ces connaissances. C'est-à-dire, dès 45, c'est-à-dire dès le début de cette commercialisation formidable des pesticides, il y a des gens, des scientifiques, qui disent « Attention, il faut faire en fait une étude préalable pour savoir comment les utiliser. » Et ils ne seront pas écoutés.
On parlera du DDT avec vous, entre autres, dans un instant pour la suite de ce dossier et les messages qui nous arrivent sur franceinter.fr.
Dans une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir glissait, glissait. Il avait un drôle d'habit noir qui avait dû faire des grands soirs de l'Autriche et de la Hongrie. Quand elles étaient réunies, c'était un échassier bizarre. Il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait. Il patinait. Sur une jambe, il patinait. La nuit est arrivée, il lui a fallu s'arrêter, car les enfants devaient rentrer, le spectacle était terminé. Une belle femme aux cheveux blancs est venue vers lui gentiment, mettre une canne dans sa main et un long manteau sur ses reins. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait. Il patinait. Sur une jambe, il patinait. Dans une
une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir boitait, boitait. Il patinait. Sur une jambe patinait.
Il faut arrêter les pesticides. Il y a d'ailleurs maintenant des maladies professionnelles qui sont reconnues chez les viticulteurs, chez les ouvriers viticoles. Tous les problèmes de cancer liés à l'absorption et à la respiration des pesticides. Alors, je crois que la France doit être à l'offensive sur l'arrêt des pesticides. Et d'ailleurs, elle doit être aussi à l'offensive sur l'arrêt des pesticides dans les jardins. Et je vous annonce que j'ai demandé aux jardineries d'arrêter de mettre en vente libre le Roundup.
Voilà, Ségolène Royal, en juin 2015. Quel beau discours, Valérie Chansigaud.
Hein. Oui. Hein.
Arrêtons tout de suite les pesticides, bien sûr, mais qui peut y croire ?
D'autant que l'agriculture française a vu son augmentation, enfin, a augmenté sa consommation de pesticides de 9,2% en 2013, alors que les années précédentes, c'était juste 5% par an, ce qui est quand même absolument considérable. Ce qui est très...
Et nous sommes l'un des plus gros consommateurs au monde, hein, de pesticides.
Oui, tout à fait. Et ce qui est frappant, c'est, on parlait tout à l'heure de cette rupture entre connaissance et action. Il y a une image qu'on peut prendre pour mesurer, en fait, le problème auquel on est confronté dans les questions environnementales par un exemple qui n'est pas environnemental. Vous connaissez, j'imagine tous, et vos auditeurs aussi, des médecins, du personnel infirmier qui fume, en fait. Et c'est très frappant de voir des personnes qui sont parfaitement informées des méfaits du tabac par leur profession, parce qu'ils voient les conséquences du tabac, en fait, ne pas utiliser ces connaissances et de fumer quand même. On est dans une société qui est profondément à cette image-là, c'est-à-dire on sait qu'il ne faudrait pas faire toute une série de choses, et on le fait quand même.
Alors, il y a un exemple très emblématique, c'est le cas du DDT. On le retrouve à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans votre livre. Alors, ça tombe bien, parce que cette semaine, justement, les analyses de l'association Génération Future ont montré que plus d'une salade sur 10 contenait des pesticides interdits à la vente en France, dont du DDT, reconnu cancérigène, dont on pensait ne plus jamais entendre parler depuis, en tout cas, des années. Et, alors, les traces d'où viennent-elles, hein, David Biron ? Soit elles pourraient provenir du sol, imprégné.
Oui, ou
c'est une hypothèse assez solide.
De la rémanence, voilà.
Soit on utilise encore du DDT.
On va espérer que non, mais ça peut être une possibilité que certaines personnes peuvent en avoir en stock. Mais en théorie, non. En théorie, c'est de la rémanence. Et le produit est présent dans le sol depuis plusieurs années et ça peut plus de 50 ans, je crois.
C'est ça. Donc ça, c'est quand même effrayant, non ? D'imaginer qu'on a encore des traces aujourd'hui dans la terre.
Oui.
Et que c'est très long, évidemment, à disparaître.
Et qu'on va retrouver, pas uniquement dans les salades, mais dans beaucoup d'autres aliments que l'on consomme aussi.
Valérie Chansigaud.
Oui, c'est cette idée que le temps... En fait, les responsables politiques fonctionnent dans un temps extrêmement court. C'est-à-dire leur mandat, c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, c'est des temps extrêmement brefs. L'attention des gens en général est aussi une attention très, très courte. Or, ces problèmes-là s'inscrivent dans des temps assez longs. Et on ne se rend pas compte, effectivement, qu'on retrouve dans le sol de certaines terres agricoles la présence d'arsenic, qui est une substance qui a été abondamment utilisée pour ses propriétés insecticides au 19e puis au 20e siècle. Et on en trouve encore dans des quantités non négligeables dans certaines terres agricoles. Donc l'idée que parce qu'on va adopter un règlement, les problèmes vont s'interrompre, c'est quelque chose qui relève d'une véritable utopie.
Oui. David Biron, justement, est-ce que les parasites dont vous vous occupez sont de bons témoins pour observer justement les modifications, les dégradations de l'environnement ?
Les problématiques auxquelles on peut être confronté maintenant les scientifiques, c'est être conscient, par exemple, que vous avez des parasites sont aussi dans des environnements où il y a des insecticides. Et dans certains cas, vous avez des molécules, les nouvelles générations de molécules, exemple les nicotinoïdes. Il y a eu des démonstrations qui ont été faites que le couplage d'un nicotinoïde avec des parasitoïdes peuvent avoir des effets synergiques et augmenter la mortalité initiale par rapport que s'il y avait uniquement l'insecticide, même à des organismes qui sont non ciblés.
C'est quoi ? C'est l'effet cocktail, justement ?
C'est l'effet cocktail.
C'est l'association de plusieurs composants ?
De plusieurs composantes. Et on peut, maintenant, c'est à ça que la communauté doit s'attaquer. C'est pas une molécule, mais plusieurs molécules, plus les pathogènes
Et qui agissent à petite dose en plus.
Qui agissent à petite dose et qui après vont souvent avoir, les molécules vont cibler, par exemple, s'ils ciblent le système immunitaire, le parasite lui aussi cible le système immunitaire. Donc vous pouvez avoir l'effet synergique, mais des fois vous pouvez avoir l'inverse. Vous pouvez avoir une annulation de l'effet de votre molécule. Et là, vous pouvez avoir des espèces justement envahissantes qui sont capables de conquérir des niches.
Mais c'est quasiment toujours ce qui se passe d'ailleurs. On sort une nouvelle molécule pour détruire justement des espèces envahissantes et nuisibles. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il faut en inventer de nouvelles parce qu'il y a une résistance de la part de ces êtres vivants qui s'opère très rapidement quand même.
Ah, extrêmement rapidement. Ce qui est frappant, c'est de voir le temps d'apparition d'une résistance. Parfois, c'est juste quelques mois. C'est-à-dire, au bout de quelques mois, on commence à observer des insectes, par exemple, qui ont une résistance à tel produit chimique.
Ouais.
Ce qui signifie, ce qui est frappant, c'est l'obstination des êtres humains derrière, qui, au lieu d'essayer de réfléchir au problème et d'adapter, en fait, l'usage des insecticides, par exemple, aux besoins qu'ils en ont, vont se dire simplement, bah, on va changer de molécule, on va passer à un autre produit, puis un autre produit, et puis il y a une sorte d'accumulation comme ça, sans fin des produits qui s'accompagnent d'une accumulation sans fin de l'aspect réglementaire. Mmh. Et le problème est toujours, au final, le même.
Voilà, c'est la loi de l'évolution, au fond. Hein.
Oui,
ces êtres vivants trouvent toujours les bonnes stratégies pour résister et survivre.
C'est la sélection naturelle, oui. C'était justement un scientifique d'Obensky qui disait justement que pour lui, lorsqu'il regardait l'action des insecticides, c'était un moyen de voir la sélection naturelle en marche.
C'est ça. Oui, donc on les aide, au fond.
Hein. Oui, pour une sorte de preuve.
C'est ça. Marc demande sur franceinter.fr, est-ce que l'augmentation des vols commerciaux, des transferts de marchandises, augmente l'apparition d'épidémies?
Oui.
C'est tout le problème, justement, de l'abolition des frontières.
Exactement. Et puis, il faut imaginer que les contrôles sanitaires qui existent sont très, 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 très faibles.
Oui.
Alors, deux chiffres uniquement pour situer cet aspect-là. La Nouvelle-Zélande, qui pour des raisons de biogéographie historique, est très sensible justement à l'importation de pathogènes ou d'espèces envahissantes, à des contrôles qu'on juge comme plutôt très, très, très bons. Et on sait qu'en Nouvelle-Zélande, seuls 10% des marchandises sont contrôlées. Par ailleurs, on a essayé d'évaluer la qualité des meilleurs contrôles qu'on peut faire et on se rend compte qu'un organisme sur quatre est repéré.
Ouais.
Si on additionne les deux chiffres, si on ajoute les deux chiffres, c'est-à-dire 10% des marchandises sont contrôlées et seuls un quart des organismes sont repérés, ça veut dire que l'essentiel passe de façon majestueuse et souveraine.
C'est
vraiment le boulevard est ouvert pour la circulation de ces organismes, dans tous les sens.
C'est ce que vous dites, c'est que depuis les débuts, au fond, du genre homo, hein, on a favorisé aussi ces transferts. Les frontières ont disparu, les frontières physiques n'existent pas, n'ont jamais existé. Parce qu'on on a toujours permis le transport, évidemment, sur des zones géographiques plus ou moins limitées.
Alors, ce qui change, c'est aussi la rapidité du commerce. Il faut imaginer qu'un navire qui franchissait lentement l'Atlantique en plusieurs mois, une partie des organismes qui étaient présents au début finissent par mourir tout simplement en cours du voyage.
Mmh.
N'arrivent pas à survivre en fait au voyage parce que le voyage est trop long. Par contre, un vol qui va durer quelques heures va faciliter grandement la survie de ces organismes. Et deuxième aspect, c'est bien évidemment la quantité totale de marchandises ou d'êtres humains transportés qui augmente de façon exponentielle.
Oui.
Là aussi, un petit chiffre. Aujourd'hui, 500 000 personnes vont prendre un avion en France.
Mmh.
500 000 personnes, c'est absolument considérable. Et on rêve de multiplier ce nombre par deux ou trois.
Mmh.
Donc, il faut imaginer que la rapidité de la circulation, plus l'augmentation de personnes ou de biens transportés, facilite la circulation des agents pathogènes ou des espèces envahissantes.
David Biron, on parlait du problème justement du manque de diversité parfois, ou de l'extinction d'une certaine diversité biologique. Bah là, on voit qu'il y a un grand brassage biologique aussi avec les transports. Donc finalement, c'est bien ou c'est pas bien?
Non, quels que soient les niveaux de transport, donc c'est que le brassage biologique, c'est souvent, lorsqu'une espèce arrive sur un territoire, souvent, elle n'est pas nécessairement adaptée à ce nouveau territoire.
Mmh. Mais là aussi, elle va essayer de trouver des stratégies.
Elle va essayer de trouver des stratégies. Et ce qui lui aide souvent, c'est que ses ennemis qui étaient dans son autre territoire ne sont plus là.
C'est ça.
Et ce qui lui permet souvent de prendre la place, mais aussi, quelquefois, de ne pas prendre la place. Ce qui peut causer problème, c'est si vous emmenez, par exemple, donc une espèce qui est déjà présente sur le territoire ici, mais qui vient d'une autre région.
Mm-hmm.
Là, il peut avoir un brassage génétique et nuire à l'espèce, à la population qui ici était bien adaptée, parce que vous avez amené un nouveau patrimoine génétique qui, lui, n'est pas adapté au territoire d'ici.
Ouais.
On a des exemples d'ailleurs tout à fait étonnants. Il y a deux espèces de peupliers qu'on a croisées pour faire un hybride, pour des raisons horticoles. Et chaque peuplier avait son champignon pathogène. Et on a découvert qu'il y avait l'apparition d'un hybride de ces deux champignons qui a une caractéristique, c'est capable de s'attaquer aux deux parents et à l'hybride. En fait, on a réalisé une sorte de, sans le vouloir délibérément, bien évidemment, c'est une conséquence malencontreuse de ce brassage, mais inévitable. Et là, ça a permis l'apparition, en fait, d'un nouvel hybride qui est beaucoup plus, en fait, agressif que ses deux parents.
Julia demande, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y a pas une différence de traitement des épidémies en fonction des endroits où elles apparaissent? On ne parlait presque pas d'Ebola jusqu'à ce que le virus touche des pays développés.
Oh, exactement. Ça, c'est absolument frappant. Je montre d'ailleurs dans le livre deux graphiques sur la fièvre du Nil occidental et sur Ebola en termes de nombre de publications. Et on voit une courbe exponentielle absolument classique. Et ce qui produit en fait le départ de cette courbe exponentielle, c'est l'arrivée du premier malade sur le sol des États-Unis et le développement de la maladie de la fièvre du Nil occidental aux États-Unis également.
Donc tout est dit.
Oui.
Qu'ai-je fait, qu'avais-je à faire, aimer autant que peu dans mon ombre avant toi. Mais je n'en ai que faire, le vent, le vrai refait du feu et le monde à l'endroit. Viens dedans les fièvres, les ivoires, confie mes malheurs. Viens tes dents, tes lèvres, tes rêves, tes livres, ton eau de cœur. Car je reste assoiffé de sel et à désaltéré. Qu'ai-je fait, qu'avais-je à faire de peine autant d'adieu sous des combles sans toi. Mais je n'en ai que faire, la chambre éclaire à l'amoureux, la lune monte. Seul avec l'été. Love keeper, love keeper. Viens dedans les fièvres, portons des vivres au bonheur. Car lui est affamé. Qu'ai-je fait, qu'avais-je à faire, aimer autant que peu comme un ombre avant toi. Mais je n'en ai que faire, le vent, le vrai refait du feu.
Love qui peut les innocents.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
C'est un livre, La nature à l'épreuve de l'homme. Valérie Chansigaud, vous en êtes l'auteur, et c'est chez Delachaux et Nestlé. Et les mails des auditeurs qui arrivent, Eliane nous dit ceci au sujet tiens, du DDT. Des agriculteurs utilisent encore du DDT en allant le chercher à l'étranger, notamment en Espagne. C'est assez connu dans le monde agricole, dit Eliane, mais heureusement, tous les agriculteurs ne le font pas. David Biron, vous connaissez ça évidemment.
C'est ce qu'on entend parler dans quelques reportages, que ça peut être possible qu'il en existe encore. Mais bon, après, on se base sur la bonne foi des gens.
Sur Twitter, Benoît nous dit « La diminution de la biodiversité peut-elle être mise en parallèle avec la standardisation de nos sociétés, de nos modes de pensée, avec la baisse de résilience qui l'accompagne ?»
Un vaste débat de nature très philosophique, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a des liens absolument étonnants entre, enfin, un parallèle qu'on peut faire entre la diminution, par exemple, de la diversité des langues parlées sur Terre, de la diversité des modes de vie et l'érosion de la diversité biologique.
C'est un parallèle qui avait été établi effectivement par des linguistes, hein, ici même il y a quelques semaines dans l'émission. David Biron, pour revenir un petit peu à cette conversation qu'on avait il y a quelques minutes, tous les organismes finissent toujours par s'adapter au changement. Ça, c'est une règle absolue de la nature?
Non, ils finissent pas toujours à s'adapter. C'est pour ça qu'il y a des disparitions d'espèces. Donc, c'est actuellement la vitesse à laquelle sont confrontés les organismes au changement fait qu'il peut y arriver qu'ils ne sont pas capables du tout et on voit une disparition d'espèces importante. Et justement, les pathogènes ou autres, par exemple, je vous ai donné l'exemple des champignons chytrines, donc qui est un bel exemple, parce que les organismes n'ont pas été capables de s'adapter à l'intérieur des populations et on a perdu une diversité énorme de bêtes, d'amphibiens, qui était une belle richesse pour la planète et on ne reviendra jamais en arrière.
En tout cas, il y a des gènes de résistance qui posent beaucoup de problèmes, illustrés par exemple à l'occasion de cette publicité de l'OMS qui tirait la sonnette d'alarme en mai 2014.
Plus nous utilisons les antibiotiques, plus les bactéries s'y habituent et deviennent résistantes. Ces bactéries résistantes se multiplient et se propagent, et c'est la santé de tous qui pourrait être fragilisée. Pour préserver l'efficacité des antibiotiques, il est impératif de n'utiliser les antibiotiques que lorsque c'est nécessaire, en respectant les doses prescrites et la durée du traitement.
Voilà, message de l'OMS. Et puis encore très récemment, on en parlait il y a quelques jours, ce problème de santé publique à l'échelle mondiale qui est vraiment gravissime sur la résistance.
Oui, 300 000 morts actuellement de personnes qui décèdent suite à une infection bactérienne multirésistante et qu'on aurait pu probablement traiter il y a 20 ans en arrière par des antibiotiques relativement simples et peu chers. Parce que le problème de la résistance chez les bactéries, c'est pas simplement la diminution de l'arsenal pharmaceutique. C'est la résistance se développe d'abord vis-à-vis des molécules les moins chères sur le marché. Ce qui fait que les populations les plus pauvres vont avoir beaucoup de mal à se soigner, tout simplement parce que les substances qu'ils auraient pu acquérir
ne fonctionnent plus
ou fonctionnent mal. On peut penser à l'Afrique subsaharienne, par exemple. Et parfois, il y a des événements croisés. Dans le cas du paludisme, à la fois l'agent pathogène, le plasmodium, est devenu résistant à la quinine dans certains pays, et le moustique lui-même est devenu résistant aux pesticides. Ce qui fait que, à la fois, le vecteur et l'agent pathogène véhiculé par le moustique sont tous les deux devenus résistants.
Christophe demande si les maladies environnementales sont en voie de reconnaissance aujourd'hui.
Oui, oui, non. C'est-à-dire, bien évidemment, elles sont. C'est un sujet de plus en plus chaud dans l'actualité. Mais en même temps, elles l'ont toujours été. C'est-à-dire, les maladies infectieuses, par définition, peuvent être considérées toutes ou pratiquement toutes comme des maladies environnementales. On s'est toujours énormément intéressé aux maladies infectieuses, étant donné qu'elles ont longtemps été la première cause de mortalité sur Terre. La tuberculose, par exemple, était la première cause de mortalité en Europe au XVIIIe siècle. Donc on s'est toujours intéressé à ce genre de choses, mais la compréhension qu'il y avait effectivement un aspect environnemental est née très lentement, même si on en avait une intuition dès l'Antiquité. Il faut attendre le 19e pour que ça se développe.
Vous donnez l'exemple de la disparition des chiens de prairie. Alors, qui sont ces chiens, les Chansigaud, et en quoi ils sont intéressants aussi à étudier?
Alors, ce ne sont pas des chiens, mais des rongeurs. On les appelle des chiens de prairie parce qu'ils ont un comportement similaire aux chiens, c'est-à-dire ils s'avertissent mutuellement à l'arrivée, par exemple,
d'un
danger.
Ils ont quelle taille, à peu près?
C'est des petits rongeurs. Alors, si je montre avec mes mains...
C'est pas pratique pour les auditeurs,
non,
mais c'est un bon gros rat, quoi.
Oui, une petite marmotte.
On les trouve où ?
En Amérique du Nord, ça formait des colonies absolument immenses. Il y avait des centaines de millions de chiens de prairie.
Vous en avez au Québec, David Biron ?
Oui, on en a.
À Trois-Rivières, là ?
Oui, il y en a beaucoup, oui.
Et en fait, à la fin du 19e, début 20e, on a considéré qu'il y avait beaucoup trop de chiens de prairie, que c'était vraiment un gaspillage énorme, alors qu'on pourrait, à la place, élever du bétail à perte de vue. Mm-hmm. Donc on est rentré dans une guerre impitoyable contre les chiens de prairie, par en fait des campagnes
des
massives d'empoisonnement.
Hein. Ouais. Il y a des photos dans votre livre qui sont assez sidérantes.
Ouais. Oui, c'est... mais vraiment, on était très très fiers de ça. Puis on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était une espèce clé des écosystèmes des grandes plaines américaines, et que si on faisait disparaître le chien de prairie, il n'y avait pas que le chien de prairie qui disparaissait, il y avait toute une série d'organismes vivants qui disparaissaient, et que eux, en fait, on souhaitait les protéger. Donc on s'est mis à protéger les chiens de prairie qu'on avait précédemment cherchait à faire disparaître. Et entre les deux, on a introduit par inadvertance la peste.
C'est ça.
Qui a fait des ravages chez les chiens de prairie.
Tout ça est très logique. Hein.
C'est une belle image du monde.
Des solutions pour faire part, pour faire face justement à ce désordre qu'on vient de décrire depuis le début de l'émission, David Biron. Vous en avez vraiment des solutions? Et votre responsabilité scientifique dans tout ça, alors?
Dans notre responsabilité scientifique, je pense que c'est ce que l'on fait déjà aujourd'hui. Donc, c'est sensibiliser les gens à ces propres préoccupations. Mm-hmm. Et ensuite, aussi, donc, en tant que citoyen, c'est de commencer à avoir une démarche personnelle déjà sur des choix qui peuvent, dans les choix, par exemple, chez vous, sur votre pelouse, si vous voulez, vous pouvez éviter de mettre du Roundup, c'est pas nécessaire. D'avoir toujours... Donc ça peut être déjà une action très concrète. Et après aussi, je pense que ce qui est très important, c'est éventuellement aussi qu'il y ait des démarches. C'est concrètement montrer à des entreprises que lorsqu'il y a un lien entre économie et environnement, que ça peut être rentable. C'est des choses qui peuvent faire avancer aussi.
Pourquoi? Parce qu'on parlerait le même langage que les économistes, là, tout
d'un coup? Pas nécessairement le même langage, mais si, par exemple, vous êtes capable de mettre un poids sur, par exemple, la valeur d'un écosystème, d'un service écosystémique, combien ça peut rapporter éventuellement à la société à court et à long terme. Quelquefois, c'est vrai que les économistes peut-être seront plus attentifs à ce que prend présente et les solutions à apporter.
Valérie Chansigo, alors, les solutions pour essayer de parer...
Déjà, être renseigné, d'être réellement informé sur l'état de la crise environnementale dans laquelle on est. Pour éviter, en fait, d'avoir des idées toutes faites, toutes simples, par exemple, d'accuser de façon simpliste, voire simplette, uniquement l'augmentation démographique. C'est le nombre d'êtres humains sur Terre qui cause la crise. Ce qui est faux, c'est l'organisation sociale, le mode de vie, les choix que l'on fait qui expliquent la crise et pas simplement le nombre d'êtres humains qu'il y a sur cette planète. Tant qu'on aura, en fait, des analyses relativement plates, pour prendre un terme québécois, en fait, on n'arrivera pas à penser intelligemment.
Oui, donc une adaptation de l'être humain, là aussi, à tout ce qui se passe. C'est pas le contraire, au fond, c'est ce que vous dites. C'est pas la nature de s'adapter à nous, mais...
En fait, jusqu'à présent, on a essayé de faire plier la nature à nos desiderata, même lorsque nos désirs étaient complètement fous ou idiots ou contre-productifs.
On y arrive plutôt pas mal, mais on le paye très cher aussi.
Voilà, c'est toujours un coût. Et en fait, par exemple, la gestion de l'environnement est en fait, non pas la gestion de l'environnement, mais la gestion des erreurs que nous avons fait précédemment en essayant de gérer l'environnement. Donc, en fait, c'est une sorte de mécanisme sans fin. Et tant qu'on n'aura pas mis un peu d'intelligence dans tout ça, je ne suis pas sûr qu'on pourra éviter quelques catastrophes encore à venir.
Pour répondre à la première question qu'on avait en début d'émission sur l'agriculture, justement, il y a des solutions importantes aussi à avoir dans ce domaine, quand même.
Oui, par exemple, le ministre de l'Agriculture, Le Foll, aimerait voir adopter par l'agriculture française une gestion raisonnée des pesticides. Ce qui est très drôle, c'est qu'il se bat pour essayer que cela se mette en place. C'est extrêmement lent. Il y a très peu, en fait, d'exploitations agricoles qui font référence à ce type de gestion intégrée. Mmh. Et cette idée est née dans les années 1960. Mmh. Imaginez que, grosso modo, plus d'un demi-siècle après, on est toujours en train d'obliger d'argumenter là-dessus. C'est un peu désespérant.
David Biron, êtes-vous un homme désespéré?
Non, je crois que justement l'homme a toute l'ingéniosité pour être capable d'aller de l'avant et de trouver des solutions. Mm-hmm. Et maintenant, c'est son défi, donc d'aller de l'avant. Et par exemple, la gestion intégrée dans les écosystèmes, c'est quelque chose qui est mis en place dans plusieurs pays et qui ici aussi peut se faire très bien. Et donc, ça veut dire, c'est par exemple, si j'ai à mettre tant de traitements contre un pathogène, contre un nuisible, voilà. je fais le choix d'en mettre, je n'en mets pas plus parce que j'ai atteint le seuil acceptable et je trouve une autre solution, un autre traitement. Et ça, scientifiquement, il y a déjà beaucoup d'études qui permettent d'offrir ces solutions-là.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus ici dans La Tête au Carré. Vous rassurez vos lecteurs dès le début, hein, Valérie Chansigo, vous êtes livré à aucune annonce apocalyptique ce livre.
Non, il y a même un message d'espoir à la fin.
Ah, quand même. Merci beaucoup. Ça s'appelle La nature à l'épreuve de l'homme et c'est aux éditions de La Chaux et Nestlé. Comment on prononce le nom exact de votre éditeur? J'ai toujours du mal à le dire. C'est Nestlé à la fin, Nestlé.
Nestlé.
Bon, voilà, c'est fait. Merci beaucoup.